Oui. Bon matin à tous, content de vous retrouver pour cette deuxième semaine pour le cours, donc l'atelier biblique. On espère que la semaine dernière avec le pasteur Yannick qui a introduit le premier cours, nous avons commencé à avoir la perspective biblique du travail tel qu'elle nous a été présentée la semaine dernière. On va poursuivre. Mais avant de commencer, j'aimerais nous inviter, et avant un mot de prière, d'aller dans la parole de Dieu. Si vous avez vos notes de cours, donc votre papier, il y a des papiers avec les notes du cours de ce matin en arrière. Donc, vous pouvez vous en prendre quelques-uns. Et je nous invite à lire le psaume 104 pour commencer, et ensuite on va prier. Donc, le psaume 104, si vous avez vos Bibles, prenez vos Bibles avec moi, ça ne va pas être affiché, mais j'aimerais qu'on le lise, le psaume 104, ensemble, et ensuite on va prier. Le titre du psaume 104 est le suivant, « Louange à Dieu de la création ». Mon âme bénit l'Éternel, l'Éternel mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence, il enveloppe de lumière comme d'un manteau, il étend les cieux comme un pavillon, il forme avec les eaux le fait de sa demeure. Il prend les nuées pour son char, il s'avance sur les ailes du vent. Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Il a établi la terre sur ses fondements, elle ne sera jamais ébranlée. Tu l'avais couverte de l'abîme comme d'un vêtement, les eaux s'arrêtaient sur les montagnes. Elles ont fui devant ta menace, elles se sont précipitées à la voix de ton tonnerre. Des montagnes, elles se sont précipitées à la voix de ton tonnerre. Des montagnes se sont élevées, des vallées se sont abaissées au lieu que tu leur as fixé. Tu as posé une limite sur les eaux, que les eaux ne doivent point franchir, afin qu'elles ne viennent plus couvrir la terre. Il conduit les sources dans des torrents qui coulent entre les montagnes. Elles abreuvent tous les animaux des champs, les ânes sauvages y étanchent leur soif. Les oiseaux du ciel habitent sur leurs bords et font résonner leur voix parmi les rameaux. De sa haute demeure, il arrose les montagnes, la terre est rassasiée du fruit de tes œuvres. Il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture. Le vin qui réjouit le cœur de l'homme est fait plus de l'huile resplendir son visage, et le pain qui soutient le cœur de l'homme. Les arbres de l'Éternel se rassasient, les cèdres du Liban qu'il a plantés, c'est là que les oiseaux font leur nid, la cigogne a sa demeure dans les cyprès. Les montagnes élevées sont pour les boucs sauvages, les rochers servent de retraite aux damans. Il a fait la lune pour marquer les temps, le soleil sait quand il doit se coucher. Tu ramènes les ténèbres et il fait nuit. Alors, tous les animaux des forêts sont en mouvement. Les lionceaux rugissent après la proie et demandent à Dieu leur nourriture. Le soleil se lève et ils se retirent et se couchent dans leur tanière. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre remplie de tes biens. Voici la grande et la vaste mer. Là se meurent sans nombre des animaux, petits et grands. Là se promènent les navires et le Léviathan que tu as formé pour jouer dans les flots. Tous ces animaux espèrent en toi pour que tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu la leur donnes et ils la recueillent. Tu ouvres ta main et ils se rassasient de bien. Tu caches ta face et ils sont tremblants. Tu leur retires le souffle, ils expirent et retournent dans leur poussière. Tu envoies ton esprit et ils sont criés, et tu renouvelles la face de la terre. Que la gloire de l'Éternel subsiste à jamais. Que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. Il regarde la terre et elle tremble. Il touche les montagnes et elles sont fumantes. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Que mes paroles lui soient agréables. Je veux me réjouir en l'Éternel. Que les pécheurs disparaissent de la terre et que les méchants ne soient plus. Mon âme bénit l'Éternel. Louez l'Éternel. Amen. Voici un long psaume que je voulais prendre pour introduire l'enseignement de ce matin. Vous comprendrez dans la suite pourquoi ce psaume sur tout ce que Dieu a fait, la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, la capacité de Dieu d'avoir fait toutes ces choses. Nous allons regarder tout ça ensemble ce matin, mais avant, courbons nos têtes pour un moment de prière. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci ce matin parce que nous sommes en face de ta parole et en face de ta parole, nous nous sentons infiniment indignes. Indignes de nous approcher de toi tant nous sommes conscients de notre propre nature de pécheurs. Mais Seigneur, nous nous approchons avec confiance. Nous nous approchons avec confiance parce que nous croyons que par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, tu nous as rendus dignes de venir dans ta présence, pas parce que nous avons cette dignité en nous-mêmes, mais parce que, Seigneur, tu nous regardes au travers de la personne de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Seigneur, ce matin, que dans ta parole, nous puissions trouver réconfort, que dans ta parole, nous puissions trouver sagesse et instruction, que dans ta parole, nous puissions, Seigneur, trouver le guide du propriétaire qui conduit nos pas, Seigneur, vers notre demeure céleste qui est, Seigneur, qui nous attend, Seigneur, et ce pourquoi, Seigneur, tu es venu mourir, Seigneur, sur la croix de Golgotha pour nous. Merci, Seigneur, ce matin. Viens, Seigneur, et fais en sorte que ce matin, ce soit point, Seigneur, de la sagesse humaine, mais que ce soit sous l'inspiration du Saint-Esprit que nous puissions explorer ensemble. Et vraiment, les différents textes que nous allons parcourir dans ta parole sur ce sujet combien important et au quotidien. Que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, et pour ceux qui viennent d'arriver, il y a encore des feuilles en arrière. Vous pouvez prendre des feuilles. Et aujourd'hui, dans le deuxième cours, le titre du cours, c'est vraiment la dignité du travail. Donc, la dignité du travail, c'est vraiment un élément important, indispensable pour comprendre toute la logique dans laquelle l'auteur du livre que nous utilisons comme référence, donc Timothée Keller. Donc, vous allez comprendre combien il met beaucoup d'importance sur ce sujet et tout au long de l'enseignement ce matin. Donc, n'hésitez pas, hein, c'est un enseignement, ce n'est pas une prédication. Donc, si vous avez des questions, les questions sont bienvenues. Le but des ateliers bibliques, c'est qu'on puisse exposer au travers d'un sujet, mais aussi qu'on puisse échanger, prendre votre expérience, comprendre votre expérience, essayer de répondre de façon plus précise et à vos questions. Et comme les notes de cours que je vous ai fournies sont complètes, je n'ai pas l'obligation de vouloir tout finir. Donc, s'il y a un sujet intéressant, s'il y a des questions intéressantes, on va prendre le temps d'y répondre parce que pour le reste, vous avez les notes de cours que vous pouvez continuer à lire. Donc, le premier point est juste une introduction et j'ai trouvé une citation de l'auteur extrêmement intéressante et dès la préface de son livre, il dit quelque chose et j'ai voulu le mettre en avant. Voici ce qu'il dit dans la page 12 de son livre. L'Évangile nous rappelle que Dieu s'intéresse aux produits que nous fabriquons, aux entreprises dans lesquelles nous travaillons et aux clients que nous servons. Et ça, c'est quelque chose, une perspective complètement nouvelle quand on parle du travail. Parce que généralement, quand on parle du travail, on voit toujours le travail comme étant pour des raisons financières, pour des raisons économiques. Et la semaine dernière, avec le pasteur Yannick, on a vu, généralement, quand on parle du travail, on nous demande pourquoi vous travaillez. Et si ce matin, je vous reposais la même question, probablement que je vais avoir à peu près les mêmes réponses que la semaine dernière. On travaille parce que, dans tous les cas, on va falloir payer son hypothèque, payer son épicerie, payer son gaz. Payer. Donc, il y a une dimension pleinement économique pourquoi on travaille. Il se peut que si travailler, sous-entendu avoir un contrat de travail avec un salaire ou travailler à son propre compte pour espérer des revenus, on travaille parce qu'il y a une perspective économique. Mais si notre conception du travail, si notre pensée sur le travail ne se limite qu'à cette perception économique, nous manquons une bonne partie du plan de Dieu pour notre travail. Et c'est pourquoi je trouve cette citation extrêmement intéressante, que Dieu s'intéresse à tout. Dans le travail, Dieu s'intéresse à toutes ces choses. Donc cela donne au travail une dimension beaucoup plus qu'économique et cela montre que si nous faisons notre travail, quelle que soit la nature de ce travail, je vais revenir là-dessus tout au long ce matin, quelle que soit la nature de ce travail, si nous faisons notre travail avec fidélité, avec sérieux, alors ce travail a aussi une dimension spirituelle puisque Dieu le regarde. Si la seule personne qui me préoccupe quand je travaille, c'est mon patron, quand il n'est pas là, je fais quoi? Je ne travaille pas. Puisque c'est à mon patron que je vais plaire. Mais si c'est lui seul qui est ma préoccupation, alors, quand il n'est pas là, pourquoi est-ce que je devais travailler aussi fort que quand il est là? Mais si je comprends que mon travail dépasse être préoccupé par ce que pense mon patron de ce travail, alors ça prend toute une autre dimension. La fidélité, le sérieux que je vais mettre dans le travail va dépasser l'approbation ou la non-approbation du patron qui est celui qui va signer ma feuille de présence ou mon chèque à la fin du mois. Donc, c'est cette perspective que j'aimerais qu'on puisse considérer tout au long de l'étude de ce matin. Et la raison fondamentale derrière cette perspective que Timothy Keller donne dans son livre, c'est que Dieu lui-même valorise le travail de toutes ses créatures parce que Dieu, en créant l'homme à son image et selon sa ressemblance, l'intention était que l'homme puisse participer au travail que Dieu va lui confier et n'importe quel travail que nous faisons, nous devons avoir cette perspective. Je vais essayer de découper, ce n'est pas le même découpage dans le livre, mais j'ai découpé l'étude ce matin en 5 parties. D'abord, Dieu modèle d'un travail créatif. Dieu est lui-même l'exemple parfait de quelqu'un qui travaille de façon sérieuse et de façon vraiment structurée avec une très grande fidélité. Et ça, on le voit dès les premiers chapitres de la Genèse. Quand vous regardez déjà Genèse au chapitre 1, verset 31, jusqu'à chapitre 2, verset 1, voici ce qui est écrit. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était bon. Ainsi, il eut un soir, il eut un matin, ce fut le sixième jour, ainsi furent créés les cieux et la terre et toutes leurs armées. Genèse 1, 31 à 2, verset 1. Donc, on voit clairement dans ce passage, contrairement aux croyances qu'il y avait dans l'Antiquité ou avant Jésus-Christ, ou même avant que les récits de Genèse ne soient écrits, il y avait des croyances selon lesquelles les gens croyaient que la création est le fruit d'un combat divin. Dieu a dû vraiment comme lutter très, très fort pour créer. Non, 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 ce n'est pas l'histoire que la Bible nous raconte. La Bible nous raconte que Dieu, c'est un peu comme un peintre passionné. C'est un artiste passionné. Donc, imaginez si vous avez déjà eu l'occasion d'aller. Par exemple, des fois, quand vous voyagez, vous allez dans des endroits touristiques, il y a quelques artistes de borderie qui vont essayer de faire votre portrait, donc qui vont essayer de vous dessiner. Et quand vous regardez la manière dont ils sont capables de reproduire un visage, de vous dessiner avec une telle ressemblance, quand vous admirez leur travail, on va dire, en live, donc, et en direct, quand vous admirez ça, vous dites « waouh ». Et vous voyez toute la passion qu'ils mettent et à faire ce travail. C'est exactement ce que Dieu a fait. Dieu, enfin, je n'étais pas présent, vous comprenez, je n'étais pas présent, mais j'imagine que Dieu était en train vraiment de créer le monde. Quand il crée une, en tout cas, n'importe quelle créature, que ce soit le ciel, la terre, le soleil, les animaux, il regarde et dit « waouh ». Ah, ça, c'est bon. Et c'est ce que la Bible nous dit littéralement. À chaque fois, on dirait littéralement, moi, j'essaie d'imaginer la scène, Dieu, après avoir créé, quand il arrive le soir, il dit, OK, il est 18 heures, OK, il est l'heure de se reposer. Il prend un pas de recul, il regarde. Parfait. C'est bon. C'est excellent. C'est bon. Voilà littéralement ce que Dieu fait. Et l'auteur fait une citation que j'aime bien. L'auteur d'un travail se voit dans tout travail bon et satisfaisant qu'il a pu produire. Je ne sais pas s'il vous arrive de faire du ménage chez vous, de temps en temps. Si par hasard, vous trouvez que la maison est un peu désordonnée, les enfants ont mis des choses, le bazar un peu partout, et vous dites, cette fin de semaine, on va faire le grand ménage. Une fois que vous avez fait le ménage, vous passez dans les chambres et avec le doux parfum, vous êtes satisfait. Vous reconnaissez dans tout ce qui vous entoure désormais, vous reconnaissez, vous sentez votre effort. C'est comme l'effort, la sueur que vous avez eu toute la journée, tout ce que vous avez fait, vous voyez le résultat final, vous dites « waouh, je suis bon ». J'ai fait un excellent travail. Voilà parfaitement ce que Dieu fait. Et c'est ce que Dieu nous demande de faire. Quel que soit votre travail, on va revenir dessus, mais quelle que soit la nature de notre travail, ce qui est important, c'est cette satisfaction qu'on tire, pas de la nature du travail, mais de la qualité avec laquelle on a effectué ce travail. C'est extrêmement important. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait penser que le travail s'arrête. Parce que Dieu, il a créé le ciel, la terre, il a créé tout, il a fait toutes ces créatures. C'est fini, terminé. Non, non. La Bible nous dit que jusqu'à présent, Dieu fait quoi? Dieu continue à travailler. Dieu continue à travailler. Dieu, il prend soin, il pourvoit, il nourrit et il structure toute la vie humaine autour de nous. Dieu n'est pas en train de dormir. J'aime ce passage des Écritures qui dit « Il ne dort ni ne sommeille, celui qui garde Israël. » Il ne dort pas, il ne sommeille pas. Dieu ne dort pas, ne sommeille pas. Généralement, si vous êtes des parents, vous réalisez que vous vous comportez un peu comme ça vis-à-vis de vos enfants, n'est-ce pas? En réalité, vous travaillez tout le temps pour vos enfants, que vous soyez à la retraite ou pas. Vous êtes là, Ils ne sont plus à la maison avec vous, mais vous pensez, ah, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que je peux faire quelque chose pour l'aider? Est-ce qu'il a quelque chose à la maison? Est-ce que je peux? Est-ce qu'il a des travaux chez lui? Est-ce qu'on peut lui donner un coup de main? Est-ce que les enfants, est-ce que quelqu'un peut prendre soin des petits-enfants, des choses comme ça? Vous êtes constamment en train de penser à qu'est-ce que vous pouvez faire ou devez faire pour les aider, pour améliorer leur situation ou pour leur donner un quelconque support. C'est exactement ce que Dieu continue de faire dans nos vies. Et c'est ce que Dieu attend de chacun de nous dans son travail, que nous le fassions. Et aujourd'hui, je vais éviter d'utiliser un mot. Souvent, on va utiliser le travail séculier pour un peu comme dissocier le travail qu'on peut faire pour Dieu dans l'Église et dans notre marche avec lui, avec le travail qu'on fait tous les jours dans nos entreprises, dans nos commerces, comme si c'était deux types de travaux complètement différents. Aux yeux de Dieu, il n'en est pas ainsi. Que vous travaillez ici tous les dimanches à faire l'accueil ou à enseigner les enfants ou à apporter un enseignement, à faire la louange, quel que soit le travail que vous faites ici, il est aux yeux de Dieu aussi important et d'égale importance que le travail que vous faites de lundi jusqu'à samedi. C'est comme ça que Dieu le considère. Donc, soyons passionnés par notre travail. Le travail que Dieu désire que nous fassions n'est pas un travail qu'on fait et qu'on finit, c'est un travail continu que nous devons embrasser à l'image de Dieu. C'est un peu comme un chef d'entreprise qui essaie de faire tout pour faire prospérer son entreprise, parce qu'il sait que derrière son entreprise, il y a toute une population qui est desservie par les services qu'offre son entreprise. Il y a plusieurs employés qui dépendent de la prospérité et de la survie de son entreprise. Alors, il travaille fort pour que cette entreprise prospère. Alors, embrassons nos activités professionnelles de cette même manière. C'est le premier point que je voulais aborder avec vous. Le deuxième point que j'aimerais aborder avec vous, c'est le travail comme une vocation humaine. Et on l'a vu un peu déjà la semaine dernière. Lisons Genèse 2, verset 15. Là, il est écrit, « L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » Et l'idée ici, c'est comme si Dieu, il a fini sa création le sixième jour. On vient de lire ça dans le premier verset du chapitre 2 de Genèse. On dit, tout est fini. Mais quand Dieu a créé ensuite, quand Dieu a pris l'homme et l'a placé ensuite dans le jardin, il lui a donné un travail à faire. Et le travail était de garder le jardin et de le cultiver. Un peu comme si Dieu n'avait pas fini de travailler dans le jardin. C'est-à-dire que c'est comme si Dieu avait fait un travail incomplet. C'est un peu comme si Dieu avait besoin de l'homme pour poursuivre le travail que lui, il a commencé en créant ce jardin. Parce que ce jardin avait besoin d'être entretenu et d'être gardé. Donc, nous devons, et c'est Martin Luther, le réformateur allemand, qui disait que nous sommes que Dieu œuvre par notre intermédiaire. Donc, Dieu nous voit comme étant une extension de lui-même. Quand Dieu voit nos mains, Dieu voit nos mains comme une extension de ses propres mains. Quand Dieu voit nos pieds, Dieu voit nos pieds comme une extension de ses propres pieds. Quand Dieu voit nos yeux, il voit nos yeux comme une extension de ses propres yeux. C'est pourquoi nous pouvons poursuivre le travail de création que Dieu a fait, nous pouvons poursuivre. Et Dieu se sert de nous comme des instruments, comme des intermédiaires pour poursuivre son œuvre sur la terre. Donc, nous devons être sensibles à cette grâce de Dieu. Généralement, quand vous avez, si un peintre, si vous étiez comme un apprenti peintre et que vous avez la chance d'être dans l'atelier du maître et que le maître vous fait confiance et que le maître commence une toile, et qu'ils vous disent, vous pouvez le finir. Quel privilège, quelle grâce. C'est le maître lui-même qui vous dit, finissez ma toile. Waouh! Quand le maître verra la toile complètement établie, finie, vous aussi, votre main, votre regard a contribué à finir cette toile. C'est ce que Dieu attend de nous. Donc, bien-aimés, ma prière pour nous ce matin, c'est de se voir dans tout travail comme étant une extension de la main de Dieu, comme des instruments entre les mains de Dieu pour que Dieu puisse poursuivre et compléter et accomplir son travail chaque jour. Et plusieurs exemples bibliques, je vous donne dans les notes quelques exemples bibliques pour illustrer cela. Je commence par l'histoire de Joseph. Quand on regarde l'histoire de Joseph dans l'Ancien Testament, on se rend compte que Joseph était véritablement un instrument entre les mains de Dieu. Imaginez ce que, je vais le dire comme ça, et vous me permettrez le terme, je vais le mettre entre griffes, imaginez ce que Dieu n'aurait pas pu faire sans Joseph. Je vous laisse une minute imaginer ça. Ce qui veut dire que, imaginez que Joseph, on sait que Dieu aurait trouvé un autre moyen, pour certains. Mais imaginez un seul instant que Joseph ait refusé de faire le travail que Dieu voulait faire au travers de lui. Est-ce que le peuple d'Israël serait tous morts avec la famine? Parce que Joseph aurait refusé d'entrer dans le travail de Dieu comme un instrument entre les mains de Dieu. Mais la Bible nous dit, gloire soit rendue à Dieu, que Joseph a accepté avec joie. Et pourtant, on ne peut pas dire que c'était un travail de tout repos, parce qu'il a été amené en Égypte comme esclave lui-même, vendu à Potiphar. Et il n'était pas dans la maison de Potiphar comme un patron. Il était un esclave, un serviteur pour Potiphar. Même si son travail l'a rapidement élevé au titre d'intendant des autres esclaves, il était réellement un esclave. Et la preuve, quand il a été faussement accusé par la femme de Potiphar, Potiphar n'a pas hésité une seule seconde à le mettre en prison. En prison, il a pris au sérieux son travail de prisonnier. Je ne sais pas s'il y a un travail de prisonnier, mais supposons que. Donc, il a pris au sérieux son travail de prisonnier. Et mieux que ça, quand les gardiens de la prison ont commencé à lui faire confiance au point de ne pas mettre le plus gros fardeau sur lui et de le voir comme un intendant des autres prisonniers, il a servi dans ce rôle qui n'était pas un rôle qui pourrait être considéré comme un rôle méprisable. Il a servi avec dignité parce que probablement que dans son cœur, il savait que Dieu était à l'œuvre au travers toutes ces situations qu'il était amené à vivre. Donc, extrêmement important avec l'histoire de Joseph que vous retrouverez dans Genèse du chapitre 39 au chapitre 34. Et bonne nouvelle, grâce à ça, ses frères et sœurs ont fini par arriver en Égypte. Et c'est l'Égypte que l'Éternel a utilisée pendant 400 ans pour faire en sorte que le peuple d'Israël, de quelques personnes qu'ils étaient partis, ils sont devenus une population tellement importante et tellement nombreuse que même les Égyptiens commençaient à en avoir peur. Et c'est pourquoi ils étaient placés en esclavage de nouveau, parce qu'on avait peur de comment ils devenaient grands et puissants et nombreux. Et c'est grâce à tous les trésors de l'Égypte, quand ils ont été finalement chassés de l'Égypte, que l'Éternel a fait vivre son peuple pendant 40 ans au désert. Imaginez le travail d'une seule personne. Tout ce que je vous raconte, c'est les conséquences du travail de Joseph. Tout ça, c'est les conséquences du travail de Joseph. Alors, bien-aimés, si nous considérons notre travail comme pouvant être le début de quelque chose dont les conséquences peuvent être non seulement durer longtemps, mais parfois même éternelles. Donc, combien il est important d'avoir cet aspect dans notre esprit. Et un deuxième exemple que je vous donne dans les notes de cours, dans 2 Thessaloniciens 3, verset 8, là, c'est Paul qui parle. « Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à la charge d'aucun de vous. » Et l'idée ici, c'est que Paul essaie de montrer combien il ne détestait pas travailler. Et pourtant, il avait bien des occasions, il pouvait dire, moi je vous annonce l'évangile Et il pouvait tout simplement se contenter du travail que Dieu lui avait confié d'annoncer l'évangile et dire « je dois vivre de l'évangile ». Mais non, il dit « juste pour vous montrer combien je tiens en haute estime l'importance du travail, nous comme apôtres qui aurons pu tout simplement nous asseoir et se laisser nourrir parce qu'on était là pour vous servir, nous avons nous-mêmes, à côté de ce service qu'on rendait à Dieu en votre faveur, nous avons travaillé de nos propres mains. Nous avons travaillé de nos propres mains afin de ne dépendre de personne d'entre vous. » Combien pour l'apôtre Paul, c'était important. Donc, ils ont persévéré, ils valorisent la persévérance et l'humilité dans le travail. Et la question que je nous pose ce matin ensemble, est-ce que pour nous, c'est important de finir un travail, d'aller jusqu'au bout quand on commence un travail? Est-ce que nous sommes persévérants? Est-ce que nous regardons la nature du travail? On dit non, non, ça, ce n'est pas digne de moi. C'est un travail pour quelqu'un d'autre. Moi, je mérite un autre travail, un travail plus prestigieux que celui-là. Quel est notre regard par rapport à notre propre travail ou aux tâches que le Seigneur parfois nous appelle à accomplir? Donc, il est important, bien-aimé, que chaque métier, chaque service, même discret, que nous puissions le considérer comme étant un acte spirituel lorsqu'il est accompli avec joie, avec fidélité, avec sérieux. C'est aussi un acte spirituel parce que nous servons Dieu au travers de cela. Troisième point ce matin, la dignité du travail. Et je cite un extrait de l'auteur. La Bible aborde ces sujets de manière totalement différente. Le travail sous toutes ses formes, qu'il soit manuel ou intellectuel, est une preuve de notre dignité d'être humain parce qu'il reflète l'image du Créateur en nous. Et ça, c'est important. Parce que nous vivons dans une société très, très hiérarchisée. C'est-à-dire, on a les big boss, les medium boss, les petits boss, les employés. Et donc, c'est comme ça que notre société est structurée. Donc, on a une société très pyramidale. Il y a quelqu'un au sommet et on descend, on descend. Et malheureusement, souvent ce qu'on va faire, et même comme chrétien, on n'est pas exempt de cette vision, on va considérer les gens, la position sociale des gens, la position des gens par rapport au travail qu'ils font. Donc, si tu es tout simplement un nettoyeur de plancher, dans la tête de tout le monde, ce n'est qu'un nettoyeur de plancher. Vous voyez, l'expression même est en soi péjorative. On ne dit pas c'est un nettoyeur de plancher. On dit ce n'est qu'un nettoyeur de plancher. Comme s'il était quelqu'un sans dignité et sans. C'est comme un numéro. C'est juste un numéro parmi tant d'autres. Alors, bien-aimés, je nous pose une question ensemble ce matin. Est-ce que, sans même faire attention, sans prendre garde, est-ce que nous avons mis des catégories de travailleurs dans notre esprit? C'est-à-dire que les pasteurs, ça, dans une église, vous comprenez? Eux, ils sont où, selon vous? Ça, c'est la mauvaise conception du travail. Si vous pensez qu'ils sont là, OK, le frère ou la sœur qui vient, qui reste et qui doucement part, ce n'est pas comme ça que Dieu considère la dignité du travail. Quel que soit ce que tu fais, quelle que soit la nature de ce que tu fais, que ce soit dans l'église ou dans la vie de tous les jours, si tu le fais avec sérieux, si tu le fais avec fidélité, ce n'est pas la nature du travail qui compte. C'est la fidélité que tu mets dans ce travail qui est important. Le travail fidèle est avant tout un travail habile et excellent. Parfois, il y a des gens qui travaillent, mais dont le travail est invisible. Il y a des gens qui travaillent, dont le travail est invisible. Plusieurs milliers de personnes travaillent, mais ils sont pas sur le spotlight. Ils sont pas en avant, il n'y a pas les projecteurs sur eux. Et pourtant, sans ces personnes, rien ne se passerait. Est-ce que vous vous allez faire vos courses dans une épicerie. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'aller à l'épicerie à l'heure d'ouverture? L'instant où l'épicerie ouvre parce qu'il vous manquait du stock à la maison la veille et vous attendez juste que l'épicerie ouvre et vous sautez dedans. Si vous l'avez déjà fait, vous avez dû constater quelque chose. 8 heures, IGA ouvre, vous rentrez dedans et tous les rayons sont pleins. Parce que, entre-temps, qu'est-ce qui est arrivé? Pendant toute la nuit, une bonne partie de la nuit, il y a des gens qui ont travaillé comme des fourmis pour placer chaque article à l'endroit qu'il faut. Peut-être que ces gens-là, vous ne les verrez jamais. À moins qu'il manque du stock sur le plancher pendant la journée et qu'ils soient obligés de venir rajouter du stock. Ce sont des gens invisibles. Et pourtant, votre épicerie n'aurait jamais fonctionné sans ces personnes invisibles. Donc, bien-aimé, est-ce que la caissière que vous voyez à chaque fois que vous allez dans votre épicerie, est-ce que selon vous, elle est la plus importante ou c'est celui qui s'est assuré que tout ce que vous achetez dans l'épicerie est bien étiqueté avec le bon prix et que c'est placé au bon endroit où vous pouvez rapidement le trouver, que ce qui doit être dans le rayon congélation est congelé, que ce qui est dans le rayon frais est frais, que ce qui ne doit pas être dans ces rayons n'est pas dans ces rayons. Et que cette personne, vous ne l'avez jamais vue ou que vous l'avez vue que rarement si l'occasion donnée. Bien-aimé, ce n'est pas ce que vous faites. Même si votre travail est discret, invisible, il n'a pas moins d'importance que celui qui est tout le temps sur le spotlight, qui est sur les grands projecteurs. Donc, bien-aimés, gardons cela à l'esprit. On poursuit. Quelques exemples que j'ai pour vous ce matin, c'est la parabole des talents que Jésus lui-même donne et qui est une illustration parfaite de ce qu'il n'y a pas d'importance par rapport, c'est petit, c'est grand. Tu as beaucoup de responsabilités, peu de responsabilités, fais-le avec fidélité. Celui qui a reçu un talent et qui est parti l'enterrer, vous avez vu la conséquence, on lui a pris le talent et on lui a donné à quelqu'un d'autre. Donc ce n'est pas quelle quantité de talent tu as reçu. Tu reçois des talents, tu reçois une ordre de mission, tu reçois une liste de tâches en fonction de ce que Dieu, dans sa souveraineté, a planifié comme étant dans ta capacité de réalisation. Alors prends-le et réalise-le avec fidélité, avec fierté et avec sérieux. Donc dans la parabole, c'est clair que ce n'est pas le nombre de talents, mais c'est comment tu as utilisé ce que Dieu t'a donné. Et l'apôtre Paul revient et adresse une parole directement en lien avec le travail. Et cela, il montre encore que ce n'est pas quelle est la nature du travail, quel est le rôle, quel est le degré de responsabilité, mais c'est la fidélité. Regardez ce que l'apôtre Paul écrit dans Éphésiens 5 à 9. Il dit, « Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. » Non, pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans le ciel et que devant lui, il n'y a point de favoritisme. Je ne pense pas que j'aurais pu être plus clair que l'apôtre Paul dans ce texte. L'esclave, tu fais tout ça, alors le maître s'est dit, c'est l'esclave, c'est normal qu'il fasse tout ça. C'est pourquoi il est esclave. Et l'apôtre Paul dit, et vous, maître, faites de même. Faites de même. Faites exactement ce que j'ai dit que l'esclave doit faire. Vous aussi, faites-le pour vos esclaves. Hein? Mais comment se fait-il que je dois le faire pour mon esclave? C'est moi le maître ici, après tout. Oui, mais vous aussi, faites-le pour vos esclaves, tout simplement parce que devant le Seigneur, il n'y a pas d'homme libre, il n'y a pas d'esclave, il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit, parce que vous avez le même maître et vous lui rendrez compte à deux, l'un comme à l'autre, selon la position que l'un et l'autre occupent. Donc, important d'avoir cela à l'esprit. Et cela nous amène un défi de taille. Un défi de taille comme chrétien. Comme chrétien, dans nos entreprises, dans nos milieux de travail, il y a des gens qui n'ont pas le même statut que nous. Peut-être que vous vous êtes rempli de 5-10 diplômes. Lui, il n'a que 0 diplôme. Il a à peine fini son secondaire 5. Et il se cherche à peine. Alors, peut-être qu'il est très mauvais. Il n'est pas capable de bien s'exprimer pour mille et une raisons. Il n'a pas complété telle ou telle chose. Comment vous le regardez? Est-ce que c'est un de vos collègues? Seriez-vous prêt à le présenter en public? Voici mon collègue, on travaille ensemble. Ou vous allez faire semblant si vous croisez à Costco comme si vous ne l'avez jamais connu. De peur qu'on vous associe à lui parce que X, Y. C'est de ça que l'apôtre Paul nous parle ici. Quel regard vous portez sur le travail d'un frère ou d'une sœur, qu'il soit dans l'église ou d'un collègue, d'un ami, de quelqu'un que vous côtoyez au quotidien? Parce qu'aux yeux de Dieu, ce n'est pas ce que la personne fait, mais comment il le fait, qui est important. Et cela a des implications très, très importantes dans tous les domaines. Et une des implications importantes, quand nous finissons comme chrétiens par comprendre la dignité du travail, quelle que soit la nature du travail, alors on peut travailler avec n'importe qui. Quel que soit son niveau, quelle que soit la nature de son travail, on est capable de travailler avec toutes ces personnes-là, sans aucun jugement. Et pourtant, parfois même dans l'église, on juge. Même dans l'église, oubliez le travail de tous les jours, même dans l'église, on juge les compétences, les capacités des gens. Est-ce que c'est à cela que Dieu nous appelle? Question posée, que chacun réponde dans le secret de son cœur. 4, les implications sociales et spirituelles. Donc, il y a vraiment de vraies implications dans la dignité du travail. Et le passé, Yannick le disait dans le premier cours, si notre société fonctionne, elle fonctionne parce qu'il y a des milliers de personnes qui chaque jour font leur petite partie du travail et tout semble comme bien nulé, tout semble fonctionner parce que chacun fait sa petite part. Et on voit des implications très, très claires de les conséquences d'un tel travail qui est fait avec assiduité, avec fidélité. Dans le livre des Actes, au chapitre 2, versets 44 à 45, on lit ceci. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tous en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Donc, vous voyez, ça c'est un exemple concret d'un travail qui devient un moyen concret pour Dieu. Comme nous poursuivons le travail de Dieu, pour manifester l'amour fraternel. Donc, je peux utiliser mon travail, le résultat, les bénéfices de mon travail pour manifester l'amour fraternel, comme on le voit dans le texte de Actes au chapitre 2. Et je vous donne aussi la référence d'un autre texte dans les psaumes 145, 15 à 16. Il est écrit, « Les yeux de tous espèrent en toi, tu leur donnes la nourriture en son temps, tu ouvres ta main, et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. » Donc ça, c'est vraiment l'image, l'illustration que le psalmiste donne ici, du fait que Dieu prend soin de nous, nous nourrit, prend soin de nous. Mais tout cela, il le fait comment? Il le fait au travers du travail des uns et des autres. Dieu nous nourrit au travers de la contribution volontaire de chacun d'entre nous à participer au travail qu'il a confié à chacun d'entre nous. Donc, extrêmement important de garder cela à l'esprit. Et le dernier exemple, pas des moindres que je vous donne dans les implications sociales, c'est que pour illustrer Dieu, vous imaginez Dieu qui s'est fait chair, qui est devenu, qui a en la personne de Jésus-Christ. Jésus a appris un métier. Moi, je ne peux même pas m'imaginer si je pouvais rentrer dans la peau de Jésus, fils de Dieu, Dieu lui-même, fait chair. Je viens et je m'en vais apprendre un métier. Bon, d'accord, on comprend, mais qu'il choisisse un métier important. Non, non, il a décidé d'être charpentier. Hein? Donc, la charpenterie est aussi importante qu'être, je ne sais pas quel métier il y avait en son temps, je ne sais pas. Mais le choix de Jésus d'être, de se présenter sur cette terre comme étant le fils du charpentier, l'apprenti charpentier, le charpentier, nous montre que pour Jésus, ce n'est pas quel travail tu fais, mais comment tu le fais. Donc, c'était clair, net, important que nous puissions avoir cette perspective du travail. Mon dernier point, ce matin, c'est l'espérance pour le travail. Et un verset dans 1 Corinthiens 15, 58 dit, « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Et ce passage est important. Pourquoi? Il est important parce que, même dans, si on fait le lien avec d'autres passages, comme le deuxième passage que je vous ai donné dans les notes, Ecclésiaste 3, verset 22, on voit que Dieu a une haute estime, vraiment, de la persévérance. C'est vraiment ça qu'on met ici. Et de ne pas se décourager. L'apôtre Paul dit clairement, « Sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Parfois, on fait un travail, on se dit, « Ça donne quoi? » C'est comme, « C'est trop banal, ça donne rien. » Non, aux yeux de Dieu, si c'est votre vocation, si Dieu vous a appelé à ce travail, ce n'est pas à vous de mesurer l'importance ou non de ce travail. L'apôtre Paul vous rassure, et c'est une parole inspirée de Dieu, que votre travail ne sera pas vain. C'est ce que l'apôtre Paul nous assure. Ecclésiaste 3, 22 nous dit, « Et j'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir de ses œuvres, c'est sa part, car qui le fera jouir de ce qui sera après lui ?» Donc, il faut nous réjouir du travail bien fait. Quand on fait un travail, il nous appartient vraiment de l'apprécier, de nous réjouir. Et le texte qu'on a lu dans Corinthiens, c'est vraiment un encouragement que notre travail n'est jamais gaspillé. Oui.
Une question?
Avec plaisir. On travaillait, on évangélisait, on... Oui, donc la question du frère, c'est que quand on lit 1 Corinthiens 15, 58, tout de suite, son premier réflexe était de voir le fait de dire... travaillant pour le Seigneur, comme oui, je travaille dans l'Église, je fais des choses pour le Seigneur, le travail spirituel. Mais il n'associait pas forcément au travail de tous les jours, au travail séculier. Mais comment il faut comprendre ce texte? En réalité, il faut comprendre ce texte vraiment dans son ensemble. Travailler pour le Seigneur, malheureusement, et souvent d'ailleurs dans les églises évangéliques, ça a été interprété comme travailler dans l'église ou pour l'église ou en faveur de l'église. Non, travailler pour le Seigneur, c'est faire le travail qui honore le Seigneur. C'est ce que ce verset dit littéralement. Donc si vous êtes en train d'écrire votre code informatique et que votre code informatique honore le Seigneur, vous êtes en train de travailler pour le Seigneur au même titre que le pasteur qui est en train de préparer son sermon pour le dimanche. C'est exactement le même travail aux yeux du Seigneur. Donc, tu peux travailler de mieux en mieux pour le Seigneur. Assure-toi tout simplement que tu fais un travail qui honore le Seigneur. Et c'est quoi la différence? Un travail qui honore le Seigneur et un travail qui n'honore pas le Seigneur? C'est de faire ce que le Seigneur ne t'a pas demandé. C'est d'outrepasser la tâche que le Seigneur t'a confiée. Et il y a d'ailleurs, et ça tombe bien, je vais répondre plus profondément à ta question en citant un de mes auteurs préférés, le docteur Martin Luther King Jr. Donc, voici ce qu'il dit. Pour moi, ça a été comme quand j'ai vu, le texte est beaucoup plus long, je vous donne juste un extrait, mais c'est tout un discours qu'il a fait, ça vaut la peine d'aller chercher tout le discours dans lequel il y a cette citation. Voici ce qu'il dit. « Si la destinée a voulu que vous soyez balayeur de rue, alors balayez comme Michel-Ange peignait ses tableaux, comme Shakespeare écrivait sa poésie, comme Beethoven composait sa musique. Balayez les rues, si bien que même longtemps après vous, les hôtes du ciel et de la terre devront s'arrêter pour dire « Ici a vécu un grand balayeur de rue qui faisait bien son boulot. » Et ça, je crois que, en quelques mots, le révérend Martin Luther King a dit tout ce qu'on a tenté de dire ce matin. Je ne sais pas à quoi le Seigneur t'a appelé, mais si ta destinée, c'est comme ça qu'il exprime, si Dieu a voulu que tu sois un balayeur de rue, balaye. Balaye les rues avec la même passion que tous ces grands artistes que l'histoire reconnaît, que Michel-Ange, qui peignait ces tableaux et qui sont exposés. Aujourd'hui, acheter un tableau de Michel-Ange, on parle en millions de dollars. On parle en millions de dollars. Il dit, balaye les rues avec la même passion que Michel-Ange peignait ses tableaux ou que Shakespeare écrivait ses poèmes, que toutes les écoles de littérature au monde vont apprendre comment écrire la poésie en s'inspirant de Shakespeare ou encore que Beethoven composait sa musique. Et si vous aimez la musique classique, vous ne pouvez pas passer sous silence Beethoven, un des plus grands compositeurs que la Terre ait connu. Il dit, balaye la rue. Je ne suis que balayeur de rue. Pourquoi tu veux que je balaye la rue comme Beethoven ou comme Shakespeare ou comme Michel-Ange? Qu'est-ce que ça me donne de balayer les rues de cette manière? Et il nous donne la réponse. Balaye les rues si bien que même longtemps après toi, les hôtes du ciel et de la terre, c'est-à-dire que Dieu, les anges, tous ceux qui sont au service de Dieu, vont s'arrêter devant cette rue, vont la contempler et vont arriver à la conclusion. Dans cette rue, il a vécu un balayeur de rue qui faisait bien son travail. C'est exactement la même chose que Jésus dirait. À chaque fois que vous donnez un petit verre d'eau à un des miens, vous ne pouvez pas rater quoi? Votre récompense. Et là, il vous dira, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Mais j'ai rien fait. Je n'ai pas prêché à l'église. Je n'ai pas chanté dans la chorale. À chaque fois que vous avez fait ces petites choses, que vous êtes allé rendre visite à quelqu'un qui était malade, que vous avez apporté un petit déjeuner, que vous l'avez partagé avec quelqu'un qui était dans le besoin, à chaque fois que vous avez vu quelqu'un dans la rue et que vous l'avez aidé à porter son sac d'épicerie parce qu'il était en difficulté, quelle que soit la nature du travail que tu fais, bien-aimé, la Bible dit que si tu le fais avec passion, détermination et fidélité, alors un jour ton maître te dira « bon et fidèle serviteur ». Entre dans la joie de ton maître. Et moi, je vais finir avec deux mots. Moi, j'ai eu la grâce très tôt d'être confronté à cette vérité biblique du travail bien fait. Pas de la nature du travail. Quel que soit le travail que Dieu me demandait de faire, naturellement, je ne suis pas parfait, loin de là. Demander à mon épouse et à mes enfants, ils en auront toute une à vous raconter. Mais une chose que je me force de faire, c'est de ne jamais abandonner un travail aussi difficile qu'il soit, quelle que soit la nature de ce travail. Plus jeune, parce que j'ai grandi en Afrique, je vendais des beignets dans la rue. Je vendais des beignets dans la rue parce que je n'étais pas issu d'une famille extraordinairement riche. Et je vendais des beignets parce que pendant l'été, pendant la période de vacances, je pouvais vendre des beignets et aider un peu, supporter un peu ma mère qui s'occupait de nous. Et je le faisais avec joie, avec détermination. Et en Afrique, pour un garçon, c'est avilissant de vendre des beignets. C'est avilissant, c'est-à-dire que c'est considéré comme un travail que les filles devraient faire, pas des garçons. Moi, j'étais le petit dernier de maman. Je vendais des beignets. Et aujourd'hui, c'est avec joie que je dis que j'ai vendu des beignets en Afrique. C'est une grâce, un privilège, une joie d'avoir fait cela. Et aujourd'hui, j'enseigne à l'université. Et quand j'enseigne à l'université, j'enseigne avec passion, parce que ce n'est pas mes élèves que je veux plaire. Je ne veux pas plaire à l'ETS, je ne veux pas plaire au directeur de l'ETS. Je veux plaire au Seigneur. Je veux que le Seigneur, en me voyant donner un cours de gestion de projet ou de rentabilité de projet ou de télécommunication ou de génie électrique, quand je donne ce cours, je veux que le Seigneur dise, « Basile, il fait bien son travail. » Il fait bien son travail, il le fait pour moi. Quand je suis assis derrière mon ordinateur à Hydro-Québec et que je suis en train de programmer des fonctions pour la cybersécurité ou pour autre chose de l'entreprise, je ne le fais pas pour plaire au PDG d'Hydro-Québec. Il en a beaucoup. Si je faisais pour plaire au PDG à chaque 6 mois, il faudrait que je fasse un autre truc pour plaire au nouveau PDG, parce qu'il y a un nouveau PDG. Mais je le fais pour plaire au Seigneur. Et pourquoi je le fais ? Je le fais parce que je suis conscient que ce n'est pas pour la personne que je le fais, mais je le fais pour le Seigneur. Bien-aimés, par ces exemples, j'aimerais nous encourager ensemble. Quel que soit le travail, je ne connais pas le travail de chacun ici dans la salle. Peut-être que votre travail, vous ne l'aimez pas tant que ça. Peut-être que votre travail, littéralement, vous agace parfois. Peut-être que votre travail, vous le trouvez pénible. Et si vous avez un certain âge, les courbatures en témoignent largement. Mais, bien-aimés, j'aimerais nous encourager ensemble, comme enfants de Dieu, à démontrer qu'un jour, vos collègues de travail, que votre patron, que les gens qui vous ont côtoyé, les gens à qui vous avez offert ces services, disent, dans cette épicerie, il y avait un commis. Waouh, il faisait bien son travail. Et pour finir, je vais vous partager pas mon histoire, mais l'histoire d'une personne. C'est notre gardien de sécurité à Hydro, sur le site de Varennes. Ce monsieur, presque tout le monde, à la fin de l'année, lui apporte quelque chose. Pourquoi? Parce que ce monsieur, il ne fait qu'un seul travail. Que les autres collègues qui font le même travail que lui aussi font. C'est que quand tu arrives à la guérite d'Hydro-Québec, tu passes ta carte d'employé et la guérite s'ouvre. Et lui, il est dans son cubicule et il voit les gens passer. C'est juste son travail. S'il y a un problème, là, c'est le seul moment qu'on le voit. Mais ce monsieur, à chaque jour, même si on est 500 sur le site, à chaque fois que quelqu'un passe, il ouvre sa fenêtre, l'été comme l'hiver, il te salue et te dit bonne journée. Systématiquement, sans exception. Comment est-ce qu'on ne pourra pas dire de ce monsieur, je ne sais pas s'il est chrétien, je ne sais pas s'il connaît Dieu, mais comment on ne pourrait pas dire de ce monsieur, il y a eu un gardien de guérite ici. Waouh, il faisait bien son travail. C'est ça que j'aimerais que, comme chrétiens, nous puissions laisser comme témoignage partout où le Seigneur nous appelle à travailler, quelle que soit la nature du travail. Cela démontre tout simplement que nous croyons à la dignité du travail et que nous poursuivons le travail que Dieu a commencé et Dieu se sert de nous pour le réaliser. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Donc, on va prier, on va remercier le Seigneur pour le travail qu'il nous donne, qu'on l'aime ou qu'on l'aime un peu moins. Merci au Seigneur. Donc, surtout si vous aimez un peu moins votre travail, osez ce matin dire, « Seigneur, merci. Peut-être que tu m'appelles à un autre travail, mais aujourd'hui, celui-là, tu me l'as donné. Il ne me fait pas sauter de joie, mais je veux te rendre grâce pour ce travail-là. Et je veux que tu me donnes la force de le faire avec toute la volonté que j'ai, parce que ce n'est pas pour quelqu'un que je le fais, c'est pour toi, Seigneur. » Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole. Merci pour ce rappel. Ce rappel qui nous dit que tu nous as créés pour travailler, pas pour quelqu'un. Tu nous as créés pour travailler, pour toi. Et chaque travail que nous faisons, que ce soit dans l'Église, en dehors de l'Église, dans la vie de tous les jours éternels, chaque travail que nous le faisons pour toi. Seigneur, rappelle-nous constamment que toutes les personnes qui nous entourent sont dignes quelle que soit la nature de leur travail. Mais apprends-nous surtout à te dire merci pour le travail que tu nous as donné et à faire comme cet extrait que nous avons lu, que nous puissions faire notre travail avec les mêmes passions que les grands artistes, les grands hommes de ce monde ont témoigné dans leur travail et qu'un jour les hôtes des cieux et de la terre puissent s'arrêter devant nos réalisations, devant notre travail accompli et qu'ils disent qu'ici a vécu un travailleur qui faisait bien son travail. Merci Éternel pour ta grâce envers nous. Merci de continuer ton travail dans nos vies parce que toi tu ne t'arrêtes jamais et aide-nous à être le prolongement de ce travail dans la vie de nos frères et sœurs pour la gloire de ton nom. C'est en Jésus-Christ que nous prions. Amen. Merci à vous. Donc, si vous n'êtes pas inscrit, comme avec votre email, il y a encore une feuille, vous pouvez rajouter vos noms. Comme ça, vous pouvez recevoir les notes de cours et avant dimanche.